Et pour cette lecture, allons-nous, nous allons tout de suite démarrer avec le verset 30 que vous avez là sous les yeux. Gardez ce texte, si vous voulez bien, sous les yeux, et vous allez aussi voir un plan sur le dos des prières pour vous aider à suivre ce que nous comptons faire. Le verset 30, c'est tellement un contre-courant de notre instinct, n'est-ce pas? Dans la vie, même en tant que chrétien, ça ne marche pas comme ça. Comme dit le verset 30. Être premier de la classe, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Cela témoigne d'avoir réussi, en quelque sorte, une matière, d'avoir peut-être étudié, d'avoir mis du temps à part. On veut encourager cela, normalement. Réussir à un entretien d'embauche, être le premier, donc d'être pris par la société, cela se félicite aujourd'hui. Cela témoigne d'avoir pu bien se présenter pour avoir ce travail, bien peut-être comprendre la société avec qui on veut travailler et ensuite d'avoir fait l'effort de comprendre le rôle envisagé. C'est bien d'être le premier et terminer parmi, disons, les trois premiers lors d'une course ou un tournoi ou un championnat. Cela, c'est le reflet du talent. De l'entraînement consacré, de la détermination. Si j'ai actuellement, moi, honte de poster mes résultats de jogging sur Strava, c'est parce que ces résultats sont une honte par rapport aux autres. Et pourtant, Jésus dit ici, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Faut-il donc viser être dernier, d'être le type qui n'étudie jamais, qui s'en fiche d'être au chômage et donc soit encore à la charge de la famille ou de l'État pendant des années, qui n'a aucun regard pour sa santé physique, c'est ça ce qu'on vise? Bah, bien sûr, nous comprenons instinctivement que ce n'est pas ça ce que Jésus vise lorsqu'il parle ainsi, mais que veut-il dire? Lorsqu'il dit cela, dans quel sens devons-nous comprendre qu'être un dernier sera d'être un premier? Et notre texte nous aide ce matin à répondre à cette question, car ce dicton que nous trouvons à d'autres endroits dans l'Évangile aussi apparaît ici après trois échanges que Jésus a dans les versets que nous avons lus. D'abord dans les versets 13 à 15, il s'adresse aux disciples par rapport à ces questions des enfants. Ensuite, il échange avec ce jeune homme qui est riche, dans les versets 16 à 24. Et enfin, il échange de nouveau avec les 12, ses disciples, dans les versets 25 à 30. Et ce verset 30 sert comme un résumé de ce qu'il enseignait lors de ces trois échanges. Que le Seigneur donc nous aide ce matin à discerner son appel à nous, à comprendre ce qu'il faut pour être dans le royaume des cieux. Et que nous soyons prêts à reconnaître que Jésus bouleverse la façon instinctive que nous avons de réfléchir sur notre statut, ou sur la réussite selon Dieu, ou sur même le sacrifice pour Dieu. Et donc, selon le plan que vous avez, nous allons d'abord apprendre de l'exemple des enfants dans les versets 13 à 15 de ce texte. On ne va pas y rester longtemps, car cela rejoint ce que Jésus avait déjà dit au chapitre 18. Peut-être vous vous souvenez de cela, nous avons vu cela il y a quelques semaines. Mais rappelons-nous que Jésus, là, avait identifié des petits comme étant ses disciples. Il avait dit au verset 3 du chapitre 18, c'est pourquoi celui qui se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et ensuite, il a souligné au chapitre 18 l'importance d'accueillir un petit enfant comme celui-ci, plutôt de faire trébucher un seul de ces petits qui croient en moi. Et donc là, Jésus disait qu'il fallait renoncer à tout statut devant Dieu. Toute tentative de réclamer mon importance de par mon standing, de par mon palmarès impressionnant, de par mon salaire ou mon rôle dans la société. Il faut renoncer à tout statut pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Il fallait apprendre qu'appartenir à Jésus, c'est d'être bénéficiaire de son œuvre. Point. Croire ainsi, c'est de devenir l'un de ses petits. Et ici, chapitre 19, verset 13, ce sont les disciples de Jésus en principe. Donc, c'est petit, si vous voulez, l'un des siens, qui font quoi? Ils font des reproches aux gens qui amènent des enfants à Jésus. Pourquoi? Bon, cela n'est pas explicité, mais on peut déduire qu'il est question de ne pas vouloir troubler le maître avec ses petits, ne pas vouloir interrompre un programme déjà serré dans le ministère important de Jésus. Les enfants, comme on disait lors de mon enfance, doivent être vus et non entendus. Il y a donc une ironie, n'est-ce pas? Car au lieu de voir le manque de statut qu'ils ont pour faire partie du royaume de Jésus-Christ, ses disciples continuent à opérer instinctivement sur le principe d'importance pour avoir une proximité à Jésus-Christ. Et donc, peut-être inconsciemment, au lieu de se comporter, eux, comme des petits, qui se sont fait humbles devant le Seigneur Jésus-Christ, ils se comportent toujours comme des grands. Et en ce faisant, ils montrent qu'ils ont du progrès à faire, n'est-ce pas? Car que leur dit Jésus? Verset 14, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour leur pareil. » Pour leur pareil, pour ceux qui sont comme eux. Eux, ces petits-enfants qui incarnent le type de dépendance ou de foi qui accepte ce que Jésus offre, qui ne croit pas avoir droit à ce qu'il offre. Apprenons donc premièrement de l'exemple des enfants, chers amis. Mais apprenons deuxièmement, et c'est là où on va prendre la plupart de notre temps, du cas du jeune homme riche. Son histoire est une triste histoire. Triste car jusqu'à un certain point, il veut apprendre lui-même. Jusqu'à un certain point, cet homme démontre du sérieux par rapport à Jésus, du respect pour Dieu, de l'amour pour son prochain. Il pose verset 16 ce qui semble être une bonne question. « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Une vie approuvée par Dieu qui garantit l'accès au royaume de Dieu. Et lorsque Jésus lui dit, verset 17, que si tu veux entrer dans la vie, tu dois observer les commandements, et Jésus lui dit la deuxième partie des 10 commandements, la réponse de cet homme, d'une part, est impressionnante, n'est-ce pas, verset 20, « J'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore ?» Bah, ce type est donc obéissant. Il est droit devant les hommes. S'il se présentait à ma porte pour me demander la main de l'une de mes filles en mariage, je serais, je suppose, bien disposé de lui dire, mais bien évidemment, car non seulement il est correct, mais, oh oui, il est riche. Et du coup, Jésus là expose ce qui se trouve sur le cœur de cet homme. Alors, tout comme l'apôtre Paul, il faut voir Philippiens chapitre 3, il disait ceci par rapport à lui avant sa conversion, cet homme-ci, comme Paul, quant à la loi de Dieu, était d'une certaine manière irréprochable. Un point qu'il cherche à savoir ce qu'il doit faire de plus. Mais en ce faisant, il révèle son problème, car il pense que l'accès au royaume de Dieu, au royaume des cieux, a lieu grâce à ses efforts à lui. Et ce n'est pas le cas. Oui, nous devons le dire, l'obéissance à la loi de Dieu est nécessaire pour le croyant, pour entrer dans la vie éternelle. Nous ne pouvons pas prétendre aimer Dieu sans aimer ce que lui, il aime. Dieu aime la vie. Et donc, le premier commandement qu'il mentionne ici, il ne faut pas tuer, commettre de meurtre. Dieu aime la fidélité, donc il ne faut pas commettre l'adultère. Il aime la vérité, donc il ne faut pas dire de faux témoignages. Il est généreux, donc il ne faut pas commettre du vol. Et Dieu donne la dignité. Et donc, il faut honorer ton père et ta mère. Mais ce n'est pas l'obéissance à ces lois qui donne le droit d'entrer dans le royaume. Comme si en faisant cela, tu peux dire, « Ah voilà, j'ai coché la liste, Dieu doit m'accepter. » Sauf que maintenant, il veut savoir qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Comme ça, il peut cocher et comme ça, il peut trouver l'assurance qu'il lui fallait. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ces qualités dont témoigne la loi de Dieu, parle d'un amour pour Dieu. Car ces qualités remettent en relief la bonté de Dieu, la priorité dans notre vie, que Dieu est bon et généreux, et donc il doit avoir cela dans le cœur de ceux qui le suivent. Je crois que c'est pour cette raison que Jésus tourne le regard vers Dieu dès le début de son échange avec cet homme, lorsqu'il répond au verset 17, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. » Donc là, Jésus n'est pas en train de nier sa propre divinité ou sa propre bonté à lui, mais il est en train plutôt d'exposer le mépris en dessous que cet homme il a dans son cœur par rapport à Dieu. Alors comment cela ? Car malgré les apparences, cet homme, et Jésus le sait, a un autre amour. En fait, un amour encore plus grand que son amour pour Dieu. L'amour de son argent. Car oui, cet homme est riche. Et cette richesse a une place trop importante. Jésus expose cela parce qu'il dit au verset 21, « Si tu veux être parfait, va. » Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. Jésus, rappelons-nous, est celui qui est venu de Dieu pour inaugurer le royaume des cieux. Celui qui, selon le chapitre 5, est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et donc, afin de vraiment obéir à Dieu, il faut plier les genoux devant le Christ. C'est lui, Jésus, suis-moi, la clé d'entrée pour le royaume de Dieu. Pour avoir donc la vie éternelle, pour être sauvé, comme demandent les disciples au verset 25. Alors Jésus met le doigt sur ce qui empêche cet homme de le suivre. Et il s'agit de ses biens matériels. Verset 22, cet homme est triste, tout triste. Car il part après avoir fait le calcul dans son cœur. Suivre Jésus ou vendre ce que j'ai. Ah non, ça je ne peux pas faire. Pourquoi ? Car le texte précise, il avait de grands biens. Alors à ce stade, j'imagine que plusieurs ici présents ce matin, peut-être pas à haute voix, ils ne vont pas dire ceci, mais dans leur cœur, sont en train de réagir un peu comme ceci. Oh là là, c'est un peu dur ici, n'est-ce pas, Jésus auprès de cet homme. Je sais que ce n'est pas à tout le monde que Jésus lançait ce défi de vendre tout ce qu'il avait pour le suivre. Et donc, selon moi, cet homme il n'a peut-être pas eu la chance de croiser Jésus. Car à vrai dire, si c'était moi à sa place, je ne suis pas certain d'avoir pu faire autrement non plus. Alors pour nous aider par rapport à ce ressenti que nous pouvons expérimenter. Voyons la suite, chers amis. Quand Jésus enchaîne en prenant l'homme riche comme exemple de toute personne riche. Verset 23. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. À quel point est-ce difficile? Plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, je sais, je ne suis pas super fort en illustration concrète. Et d'ailleurs, mes aiguilles se coincent là, ici, contre mon petit sac en plastique, parce que ça me faisait pas mal dans ma poche. Mais voici, vous ne les voyez pas, parce que c'est assez petit, n'est-ce pas? Et même si nous disons peut-être des aiguilles à l'époque étaient plus grandes, c'est peut-être le cas, ok? Le trou, alors même moi, je n'arrive pas à voir le trou, mais il y a apparemment ici, quelque part, un trou. Ok? Alors, je cherchais dans le Playmobil chez moi pour le chameau, avec Nelly ce matin, on creusait tout ce qu'on avait dès l'enfance de mes enfants. On n'en a pas trouvé un. Donc, on a trouvé juste un cheval. Okay? Donc, vous devez imaginer chameau et Guy ici. Et même si vous dites le trou était plus grand que celui-là, okay, que je ne vois même pas moi-même, il faut aussi avouer que le chameau, c'est plus grand que celui-là, n'est-ce pas? Alors, ça, ce n'est qu'une petite illustration d'un chameau. Donc, vous imaginez la taille d'un chameau et le trou d'aiguille. Okay? À quel point est-il donc difficile, verset 23, à un riche d'entrer dans le royaume des cieux? Difficile? Extrêmement difficile? Impossible. Oui, impossible. C'est ce que Jésus lui-même affirme. Quand les disciples réagissent, comment? Que disent-ils les disciples? Qui donc peut être sauvé? Eux, ils réagissent comme tout bon juif de l'époque, où la richesse témoigne plutôt de la bénédiction de Dieu. Et maintenant, Jésus est en train de dire que les riches ont pour finir du mal à y entrer. Et Jésus répond, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Donc, loin de servir comme garantie que nous sommes dans le royaume de par nos richesses, les richesses posent plutôt un immense obstacle pour l'homme, pour entrer dans le royaume. Pourquoi? Car, comme dit l'Écriture ailleurs, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent, cela témoigne d'un cœur partagé, qui recherche sécurité et confort ailleurs que dans le Dieu qui nous a créés, par qui nous sommes entrés dans ce monde avec rien en main et par qui nous allons aussi quitter ce monde sans rien en main. La richesse est capable, bien entendu, de nous fournir des biens, du statut dans cette vie pendant un temps. Et laisser à nous-mêmes, cette richesse nous empêche de nous fier à celui qui peut nous faire entrer dans son royaume. Les richesses nous rendent terriblement aveugles en ce qui concerne la source véritable du bonheur éternel. Et oui, là, nous devons, comme tout homme riche, rompre avec nos richesses. Dans ce sens-là, en principe, donner toutes nos richesses à Jésus-Christ. Se rendre compte que Jésus nous demande de le suivre à 100%, tout ce que nous avons, au lieu de lui dire « tu es maître jusqu'à 80%, mais les 20% qui sont mes richesses, je garde pour moi. » Non, tout ce que j'ai, Jésus me le demande, je dois le suivre. S'il n'est pas Seigneur de tout, alors cela signifie qu'il n'est pas Seigneur du tout. Donc oui, c'est vrai, Jésus ne nous demande pas de façon littérale aujourd'hui de quitter cette salle et de vendre tout ce que nous possédons, mais il nous demande aussi de le suivre, de lui donner tout ce que nous avons, y compris nos richesses, de mettre nos richesse à sa disposition, tout mettre à son service, car tout ce que nous avons est à lui. Et donc, si vous êtes un peu soulagé, ah, ok, moi je ne dois pas alors vendre tous mes biens, oh, c'est bien. Alors cela témoigne d'une attitude qui résiste encore à son appel sur notre vie. Si oui, entendons alors cet avertissement. Il est plus difficile pour un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Apprenons, chers amis, du cas du jeune homme riche. Cet homme si proche d'une certaine manière, mais ultimement si loin du royaume. Et troisièmement, apprenons enfin de la plainte des disciples. Car là aussi, cela en dit long sur la compréhension de comment eux aussi, ils pensent être sauvés. Que dit Pierre, la porte-parole des douze ici, verset 27. Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il alors pour nous? Attendez, Jésus, c'est ça ce qu'ils disent. Tu te rends compte, Jésus, de ce que tu dis là? Si même pour les riches, c'est impossible d'entrer dans le royaume, qu'en est-il de nous? Imaginons notre cas. Nous avons tout quitté pour toi, tu sais. Métier, famille, sécurité, respect de nos pères. Et cela, tu dis, ça compte pour rien. Eux aussi, voyez-vous, réfléchissent encore sur le plan du mérite. Pouvoir recevoir leur place dans le royaume comme une récompense pour leurs efforts. Et Jésus, ici, au lieu de les reprocher directement, les encourage, les enseigne que leurs sacrifices ne seront pas ignorés. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont sacrifié de telles choses pour Jésus que Jésus leur doit, de part de tels sacrifices, une place dans son royaume. Cela ne vient que par la grâce de Dieu. Par Dieu qui, grâce à Jésus et à sa mort sur une croix pour sauver des pécheurs, peut opérer l'impossible. Dieu, vous savez, il n'est pas le débiteur d'aucun homme. Aucun de nous peut rétorquer à Dieu qu'il nous doit quelque chose. Mais cela ne signifie pas qu'il ne prend pas soin de ses disciples. Oh non! Verset 28, Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur les 12 trônes, vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Ici, Jésus parle du privilège qu'auront les 12 de siéger lors du jour du jugement avec Jésus, le Fils de l'homme, pour juger les 12 tribus d'Israël. Probablement parce que Israël a rejeté son Sauveur, n'est pas tourné vers Jésus par la foi, comme les disciples l'ont fait. Et ensuite, Jésus affirme sa provision pour ses disciples, ceux qui quittent tout pour le suivre. Verset 29, « Quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, soeur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus, ou 100 fois plus dans d'autres traductions, et héritera la vie éternelle. » Alors, celle-ci n'est pas une promesse uniquement liée au royaume pleinement réalisé lors de la nouvelle création. Non, cette promesse se réalise déjà, maintenant, car Jésus pourvoit pour ses disciples. Il prend soin d'eux en leur donnant de ce dont ils ont besoin. Il pourvoit toute une gamme de relations profondes et proches pour récompenser ceux et celles qu'ils ont dû quitter. Ce n'est pas de nouveau à prendre à la lettre ce que Jésus dit ici. On ne peut pas avoir, après tout, 100 mères. C'est impossible, cela. Mais il y a une richesse relationnelle qui est très puissante au sein du peuple que Jésus construit, au sein du royaume des cieux, au sein donc de l'Église de Jésus-Christ. L'Église fournit tout un réseau de relations riches en fraternité. Personne, déjà dans cette vie, mais surtout en vue de l'éternité, puisse dire au Maître, « Nous avons eu le mauvais côté de cette affaire. » Non, non. La plainte des disciples, avec cet accent sur l'apitoiement sur soi, n'est pas juste. Apprenons donc également de leur exemple. Voilà en quoi donc consiste cette phrase avec laquelle Jésus termine cette partie au verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des derniers seront les premiers. Chacun des trois exemples nous pousse à voir à quel point le royaume ne tourne pas autour des critères que ces exemples soulèvent, sur base de notre importance, sur base de notre statut, sur base de notre performance, sur base de nos accomplissements, sur base même des sacrifices que nous faisons pour suivre l'appel de Jésus-Christ. Non, le royaume des cieux tourne autour du principe de la grâce de Dieu que nous recevons humblement, comme des enfants qui reçoivent ce qu'on leur donne. C'est pour cela, il me semble, que la parabole suivante, début du chapitre 20, que nous allons voir la semaine prochaine, va élaborer ce principe de grâce encore plus. Et cela donc nous mène à la fin, pour terminer avec ces trois questions d'application, si vous permettez, chacune liée à l'un de ces trois exemples. Première question alors, estimes-tu être quelqu'un? Le piège de l'orgueil. L'orgueil, chers amis, ce n'est pas une qualité que la plupart d'entre nous cherchent à engendrer encore aujourd'hui. Dans notre société occidentale, cela reste toujours un peu mal vu de chercher à se vanter de ce qui nous sommes, même si c'est peut-être en hausse actuellement. Mais l'orgueil n'est pas réservé uniquement à ceux et à celles avec des mauvaises intentions, comme si ce n'est que des politiciens qui cherchent à se faire élire qui sont coupables de ce piège. Non. Ici, rappelons-nous, il s'agit des disciples de Jésus qui courent le danger de tomber dans ce piège. Et ce genre d'orgueil se manifeste chaque fois que l'homme cherche à se rassurer, si vous voulez, à propos de qui il est en prenant refuge dans une identité autre que la dépendance humble et simple en Jésus-Christ. Jésus ordonne que nous venions à lui les mains vides, dépendantes uniquement de lui. Mais ce qui paraît parfois convaincant lorsque nous entendons Jésus parler ici, lorsque nous sommes rassemblés à l'Église, confrontés par Jésus, peut devenir plus fade, il me semble, lorsque nous nous retrouvons dans un contexte où nous sommes confortables, où Jésus n'a peut-être pas l'habitude d'être sur le devant de la scène, lorsque je me retrouve avec mes amis autour d'un verre, ou lorsque je suis dans mon équipe ou mon club, ou lorsque je me retrouve avec ma famille non-croyante. Dans tous ces instants, c'est tout d'un coup confortable, je dirais, de me persuader que Jésus, ultimement, il ne compte pas pour grand-chose. Que mon importance, ma valeur, vient d'ailleurs quand même que Jésus, mais plutôt de mon appartenance à tel ou tel groupe. Mais le dernier jour, lorsque j'apparais seul devant le maître, réclamer une autre appartenance pour être accepté par Jésus, d'avoir été quelqu'un dans un autre contexte, ne marchera pas. Cela ne comptera pour rien d'avoir été membre, même de la famille royale, ou récipient d'un prix Nobel, ou d'avoir remporté la médaille d'or, si nous ne nous sommes jamais tournés humblement aux pieds de Jésus-Christ. Alors, estimes-tu être quelqu'un? Le piège de l'orgueil. Deuxième question. Que chéris-tu le plus? Le piège de l'argent. Jésus aurait pu parler d'un autre piège. Car c'est vrai qu'il n'y a pas que l'argent que nous pouvons chérir plus que Dieu. Mais ici, à cet homme, il met son doigt sur ce piège-là. Et donc, je pense que c'est juste de se poser la question. Que chéris-tu le plus? Il faut comprendre qu'il est question de ce que nous valorisons le plus ici. Car si nous chérissons pas le royaume de Dieu, plus que je chéris la sécurité qu'il peut y avoir dans le court terme, de par mon compte en banque, alors je ne suis pas Jésus-Christ, un disciple de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 6, verset 21, Jésus disait ceci, « En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Jésus demande que nous abandonnions tout pour le suivre. Il promet de prendre soin de tous ceux qui font cela. Est-ce que ce qu'il offre vaut le coup? C'est donc ça la question. Et les richesses sont trompeuses, chers amis, car ils nous font croire que suivre Jésus ne vaut pas le coup. Car je m'attache, ou j'attache ma sécurité à ses richesses. J'ai eu rien que la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de citer Proverbe 8 à quelqu'un dans mon entourage. Recevez, Proverbe 8, verset 10, « Recevez mon instruction plutôt que de l'argent, la connaissance plutôt que de l'or affiné, car la sagesse vaut mieux que les coraux. Aucun objet désirable n'a sa valeur. Bon, » il est question de valeur ici, vous voyez cela. Le royaume des cieux vaut plus que toute autre chose. Aucun objet désirable n'a sa valeur. Sa valeur, la valeur de la foi humble et dépendante en Jésus-Christ. Même si cela nous coûte tout ce que nous avons et au-dessous tout ce que le monde peut nous offrir. Ne soyons pas chers amis, surtout si nous sommes jeunes dans cette vie, aveugles par l'attrait trompeur des richesses. J'ai mangé cette semaine avec un couple retraité qui ont quitté à l'âge de la retraite une vie confortable en Australie, à Sydney, là où ils ont une vie aisée pour se mettre pendant la retraite au service du Seigneur ici en Belgique, car ils sont persuadés que cela vaut le coup. Et il me parlait cette semaine d'avoir été frappé par l'exemple de leurs propres parents qui terminaient du côté de la femme, ses parents à elle, qui terminaient la vie dans un home. Et cela les a frappés, il disait, que malgré une vie humaine relativement réussie, la plupart d'entre nous, si nous terminons dans la vie dans un home, alors, à ce moment-là, nous terminons rien qu'avec une petite chambre et nos possessions ne sont pas plus que cela que nous pouvons mettre dans une valise à la fin de toute une vie de richesse. Tous nos biens matériels ne peuvent pas venir avec nous. Et la maman, lorsqu'elle avait atteint de démence vers la fin de sa vie, lorsqu'elle ne pouvait plus parler, de temps à autre s'exclamait juste ceci. Jésus, Jésus. Et sa fille, donc cette femme avec qui j'ai échangé, nous disait que si c'est tout ce qu'on peut dire à la fin d'une vie réussie, c'est ça ce qui compte enfin. Amen à cela. La conséquence d'une telle attitude envers l'argent sera laquelle? La générosité, chers amis. Que disait Paul à Timothée au sujet des riches chrétiens? À Éphèse, ordonne-leur de faire le bien, 1 Timothée 6. D'être riche en Belzèbe, de se montrer généreux, prêt à partager. Ils s'assureront ainsi, en guise de trésor, de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Que chéris-tu le plus? Le piège donc de l'argent. Et dernièrement, terminons donc avec cette troisième question. Dieu te doit-il quelque chose? Le piège de l'apitoiement sur soi. Et de l'apitoiement sur soi, il y en a dans le milieu chrétien, chers amis. Quand mettre l'accent sur ce qui ne va pas, sur le négatif, sur les circonstances difficiles auxquelles je dois faire face, peut être aussi, en quelque sorte, rassurant pour la personne. Car ainsi, je me positionne toujours comme étant la victime, celui qui est innocent et peut donc réclamer ce que Dieu me doit. Mais notre Dieu ne nous doit, ne te doit rien, chers amis. Bien sûr, nous avons chacun nos soucis, nos peines, mais l'apitoiement sur soi n'est pas la voie à poursuivre, car cela cherche toujours à nous mettre en avant, à faire de nous un premier, le premier dans une longue liste de bobos que j'ai apportés. Mais ce n'est pas ainsi que j'entre dans le royaume. Jésus est la clé pour entrer dans le royaume. Je rentre parce que, pas parce que je le mérite de par mes souffrances. Je rentre car merveille des merveilles, Dieu en Jésus fait grâce à des personnes grincheuses et égoïstes comme moi. Il pourvoit, chers amis, à nos besoins. Et donc, au lieu de témoigner de l'apitoiement sur soi, le chrétien témoigne, même dans la souffrance, de la reconnaissance. Comme un enfant qui cherche refuge chez ses parents, qui réclame sa sécurité dans les bras ouverts de maman ou de papa, nous pouvons être acceptés par Dieu, membres de son royaume, par sa grâce. Et pour cela, nous sommes reconnaissants, chers amis. Ça m'a frappé lorsque Muriel, qui nous a quittés pour l'église d'Etterbeek, avec son futur mari, Zach, quand elle témoignait de la chose pour laquelle elle remerciait le Seigneur de l'église. Elle avait dit que l'église, c'était comme sa famille. Elle était loin, elle, pendant un moment, de sa mère, de sa sœur, d'autres membres de la famille en France. Et elle a trouvé dans l'église des relations solides pour toute une vie. C'est beau quand cela arrive, c'est puissant de trouver cela au sein du peuple de Dieu. Dieu, donc, te doit-il quelque chose? Le piège de l'apitoiement sur soi. Trois pièges, donc, chers amis, à éviter à tout prix. Notre appartenance au royaume des cieux en dépend. Alors, nous allons terminer, si vous voulez bien, avec le chant « Contempler le prix ». Nous allons dans un instant célébrer le repas du Seigneur ensemble. Mais d'abord, nous allons chanter « Contempler le prix ». Car c'est un chant qui engendre cette attitude de reconnaissance. Les musiciens, vous pouvez vous approcher, chers amis. C'est un chant qui nous rappelle la valeur de le connaître, de placer notre confiance, notre foi uniquement en lui. Et donc, le refrain nous dit ceci « Oh, contempler le prix ». C'est un prix inestimable. Contemplons ce prix. Jésus a sacrifié sa vie au mystère infini. On est porté dans la louange vers notre Dieu. Par ses blessures, il nous guérit. Quelle joie nous avons, chers amis, d'être membres du peuple de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, mettons-nous debout et proclamons la valeur de Jésus-Christ de par ce chant.